J'aime beaucoup cette église parce qu'on trouve des sacs à main, on trouve parfois des bibles par terre, puis des fois on trouve des choses comme ça. C'est drôle, hein? C'est bizarre, hein? Merci Brigitte, parce qu'en fin de compte, je suis persuadé que ce matin, le Seigneur veut délivrer, il veut couper les liens. Voilà, c'est un coupe-branche, donc je vais lui rendre à son propriétaire. Voilà, donc j'ai vraiment été touché cette semaine par un épisode qui se trouve en Daniel. Mais avant, il y a des questions, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ce matin? Est-ce qu'on a des épreuves dans notre vie? Est-ce qu'on a des problèmes dans son travail avec des personnes? Est-ce qu'on a des problèmes à la maison? Avec peut-être l'ambiance familiale. Qu'est-ce qui fait que parfois on perd pied? Alors ici, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. L'épisode, on le connaît tous, c'est l'épisode de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors c'est bien sûr, on connaît le début de l'histoire. Nebuchadnezzar fait construire une grande statue. Il la met dans la vallée de Dura et il dit, ben, à chaque fois qu'il y aura les musiciens qui vont commencer à jouer, vous vous prosternez. Alors, il met en place la statue et les musiciens commencent à jouer. Tout le monde s'étale, se prosterne devant cette statue, sauf nos trois amis. Et bien sûr, il y a des gens qui sont allés voir le roi, ils ont dit, mais attention, il y a un truc qui n'est pas normal. Tu vois, tu m'as mis en place, et tes trois amis, parce qu'en fin de compte, le roi aimait bien ces trois personnages. Et il dit, mais eux, ils ne se couchent pas. Et avant, il avait dit que celui qui ne se prosternerait pas serait jeté dans la fournaise. Alors il est un petit peu embêté, le roi, il dit, ben, je vais être obligé de le faire. Et il dit, je vous allez faire aller la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et nos trois amis sont saisis. Et au moment où, bien sûr, les soldats les amènent, veulent les jeter, ceux qui jettent meurent, tellement la fournaise est forte. Et nos trois amis sont jetés au milieu, liés. Les mains liées au milieu de la fournaise. Le verset 24 nous dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons pas nous jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre dieu que leur Dieu. Après, il va ordonner d'adorer le Dieu suprême. L'intervention ici de Dieu est de délivrer ceux qui avaient mis leur confiance en lui. Au verset 17, Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle confiance! Quelle confiance! Ils savaient pertinemment qu'ils allaient à la mort. Ils savaient pertinemment ce qu'ils allaient vivre, mais ils savaient une chose, c'est que leur Dieu allait les délivrer. Et au verset 25, parce qu'on pourrait dire, oui, ben, c'est d'époque, ils pensaient que. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. » Il est avec eux dans la fournaise, ce Dieu. Il les accompagne. Ces trois amis sont sans lien au milieu du feu. Et le roi a eu cet instant de voir l'invisible. L'Esprit de Dieu l'a saisi pour voir l'invisible. Et de comprendre qu'à ce moment-là, il allait s'affronter à un Dieu plus puissant que son Dieu, avec un petit dé. Il ne pouvait pas rentrer en conflit. Il y a deux miracles qui l'étonnent. Le premier, c'est les trois martyrs sont libres de leurs liens et se promènent sans entrave au milieu du feu. Il y a Josué qui a été confronté à cette même chose en 24, Josué 24, verset 23. Il dit au peuple, « Mais ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il est en train de leur dire, « Mais bon sang, arrêtez de vous tourner vers ces dieux. Tournez-vous vers l'unique. Jetez tous vos idoles. » Les trois amis avaient cette confiance en Dieu, cette confiance de savoir que même dans le feu, ils seraient sauvés. Est-ce que ce matin, j'ai cette même certitude? Au milieu du feu du monde, au milieu de ce que les hommes ont mis en place pour maltraiter, parce qu'on est maltraité, on entend des propos insultants, des propos sales, des choses qui sont mises en valeur parce que ma carrière avant toute chose. Comme on l'a entendu hier, quelqu'un qui parlait au téléphone, et les gens ont dit, mais ils avaient un enfant, ils ont dit, mais nous, c'est notre carrière. Faites l'éducation de mon enfant. Mais vous imaginez où on va? Vous imaginez que ces trois amis, s'ils avaient eu cette réaction, ils seraient où aujourd'hui? Ils seraient morts, ils seraient brûlés. Mais ils ont dit, on ne va pas se prosterner devant ces statues. On ne va pas se prosterner devant le monde. Je vais choisir l'Éternel. Et l'Éternel viendra me délivrer. Donc Josué au chapitre 15 met au défi le peuple. Au verset 15, par exemple, il dit, vous, vous faites ce que vous voulez, littéralement, vous faites ce que vous voulez, vous. Vous pouvez aller vers ces dieux-là. Il dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est quoi nos choix ce matin? Est-ce que même si je sais que je suis dans l'enfer, je choisis l'Éternel? Il met en pratique en fin de compte ce qu'il prêche. Je suis chrétien, je suis mon Dieu. Je ne suis pas les dieux du monde. Je suis mon Dieu. Il dit, ma décision est toute tracée. Nous servirons le Seigneur. Point final. Nos trois amis avaient pris leur décision. La fournaise ne nous atteindra pas parce que l'Éternel viendra nous délivrer. Mais vous imaginez, c'est comme si demain j'ai dit, ben voilà, si vous n'allez pas vers un autre Dieu, on va vous fusiller. Et vous vous retrouvez devant 12 personnes, l'arme à la main. Quel va être notre choix? Nos trois amis sont allés dans la fournaise. On les a lancés dans la fournaise. Combien de fois nous rencontrons la fournaise dans ce monde? C'est au quotidien. C'est au quotidien. Et ça va être de pire en pire. Si nous ne voulons pas marcher avec le monde, on va se retrouver dans la fournaise. Parce que le monde met des choses qui vont à l'encontre de ce que l'Éternel a mis en place. Quelle va être ma réaction? Est-ce que je vais me prosterner? Ou est-ce que je vais dire non? Ma famille et moi servirons l'Éternel. Quand le peuple dit, ben oui, ok, pas de problème, on a compris ton message, nous aussi on va servir le Seigneur. Alors Josué leur dit, mais attendez maintenant, jetez donc vos idoles. C'est pas beau de me dire, c'est bien beau de me dire, oui, je crois en Dieu, je suis prêt à le suivre. Jetez vos idoles. Pourquoi nos trois amis sont allés dans la fournaise? C'est parce qu'ils n'avaient aucune idole, sinon que l'Éternel. Ils n'avaient rien d'autre. Josué dit au peuple, il dit, je vous connais bien, je vous connais très bien, vous voulez suivre l'Éternel? Virez vos idoles. Qu'est-ce qu'on a viré de nos vies ce matin? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est nos passions? Est-ce que je choisis mes plaisirs le dimanche matin au lieu d'aller à l'église? Ou est-ce que ma famille et moi, nous suivrons l'Éternel? On peut servir Dieu pleinement qu'à une seule condition, c'est de jeter nos idoles. Sinon, notre cœur sera toujours en partage. On aura Dieu d'un côté et on aura nos passions de l'autre. Si je dis dans ma vie, ma famille et moi servirons l'Éternel, ça veut dire que je prends la décision de virer les idoles. La moindre idole barre le chemin d'une pleine communion avec Dieu. La moindre des idoles. Nous avons un Dieu jaloux. Il ne se partage pas. Nos amis ont été sauvés parce qu'ils n'avaient qu'un Dieu. Ils n'avaient rien d'autre. Une récompense magnifique nous attend. Et l'image nous est donnée ici. C'est que nos trois amis marchaient avec Dieu dans la fournaise, dans l'épreuve. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies ce matin. Il veut tellement apurer notre cœur qu'il veut nous faire marcher à ce qu'on marche avec lui, sans lien, sans entrave, au milieu de l'épreuve. L'épreuve est comparée au feu de la l'affineur. Si vous lisez Malachie chapitre 3 verset 3, il est dit « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, l'épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, de vraies offrandes, d'un cœur pur, d'un cœur sincère. » L'épisode ici, c'est que les Israélites invoquaient Dieu dans le but d'un jugement. Ils ont été roulés. Parce que Dieu les a éprouvés, eux, mais pas leurs ennemis. Ils s'attendaient absolument pas à ce qu'eux-mêmes soient purifiés par les épreuves. Et c'est l'image du fondeur. Le fondeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait l'or dans le feu, à très haute température. Ce qui fait que l'or fondait, les scories, toutes les impuretés remontaient à la surface. Et le fondeur prenait un soufflet, il soufflait sur ses scories, il les dégageait. Et il restait assis pour voir la fin de l'affinage. Et qu'est-ce qui arrivait à un moment? C'est que l'or était tellement pur qu'il voyait son image dans le métal fondu. Dans son amour, Dieu opère en nous cette même opération avec soin et patience pour nous rendre conformes à l'image du Fils de Dieu. En Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Si on s'arrêtait là, à l'affinage, le feu de l'épreuve, ça forme le caractère de la foi du chrétien. En Romains 3, 5, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, même des épreuves, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce sont les épreuves qui affinent notre foi. Mais Dieu emploie un autre moyen, un moyen qui va plus loin que le feu. C'est le foulon. Le foulon, c'était un blanchisseur. Un blanchisseur qui pressait les vêtements pour décresser, pour enlever toutes les impuretés. Et ce foulon utilisait la potasse. La potasse avait cette facilité d'aller au plus profond du vêtement et elle détachait les impuretés, les saletés, et elle rendait pur le vêtement. Le feu agit sur l'extérieur. La potasse agit dans l'intérieur, dans les profondeurs. Et bien sûr, tout le reste, toute cette impureté qui était enlevée était entraînée par l'eau. Et les épreuves n'atteindraient pas leur but sans cet effet profond. Et cette profondeur est atteinte par la parole de Dieu dans nos cœurs. Elle va dans nos profondeurs. Parce qu'elle est guidée par le Saint-Esprit. Elle tombe là où il faut tomber. Elle tombe dans la bonne terre. Nos profondeurs. Elle nettoie les profondeurs du cœur. En Proverbe 20, verset 30, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'aux entrailles. Le résultat qui va suivre, c'est une offrande profonde à Dieu. On entre dans le divin parce qu'on est devenu pur, parce qu'on est devenu semblable au Fils. Et là, on a cette communion profonde avec le Père. C'est un exemple qui doit nous encourager chacun à mettre sa confiance en Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, qu'il y ait ou non l'intensité du feu. Quels que soient les événements dans nos vies, que ce soit des bons événements ou des mauvais, il faut mettre sa confiance en l'Éternel. Nos trois amis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu, vous imaginez, je pense que la fournaise, le métal qui entourait, c'est comme un four, devait être rouge. Je ne sais pas si vous êtes déjà approché d'un four de boulanger, mais vous approchez à un mètre, c'est énorme. Et là, cette fournaise était chauffée 7 fois plus. Ce qui fait que ceux qui avaient pris nos trois amis sont morts avant même que les trois amis tombent au milieu du feu. Le deuxième miracle qui a interpellé le roi, c'est que, à un moment donné, il s'aperçoit qu'ils sont plus trois, mais ils sont quatre. Et que celui qui était avec eux ressemblait à un fils de Dieu ou à un fils des dieux. Verset 25. Et si vous lisez la parole, c'est une parole que Dieu a accomplie, qu'il a faite à Jacob et à Israël. En Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est une promesse à chacun d'entre nous. C'est la promesse que même si tu te trouves dans la fournaise, dans ton travail, dans ton foyer, partout où tu es, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Au milieu de l'épreuve, le Seigneur marche avec les siens. Il partage leurs souffrances, leur opprobre. Il leur fait goûter la pleine communion. Il faut penser par exemple à une route très fortement fréquentée, l'ancienne route de bord, 20 000 véhicules jour. Impossible pratiquement de traverser, il fallait attendre des minutes et des minutes. Un enfant qui se trouve là aurait peur et crierait « Papa, porte-moi, porte-moi !» Dans notre marche avec le Seigneur, on connaît parfois de telles tempêtes, de tels orages. La tension est parfois tellement grande qu'on est incapable d'y répondre. On est submergé et on a du mal à continuer à avancer. C'est quoi notre attitude dans ces moments-là? Est-ce que je dis « il pleut encore » ? J'ai un triste temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'ai encore ces douleurs. J'ai une triste vie. Où est-ce que je loue? Est-ce qu'il y a un secours en Dieu? Est-ce qu'il y a un secours en Dieu? Est-ce que nos trois amis se sont posés cette question? Est-ce que Josué s'est posé cette question? Moi et ma famille servirons l'Éternel. On peut rejeter sur Dieu tous nos fardeaux et il va prendre soin de nous. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Psaume 34, verset 9. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es en train de nous parler, qu'est-ce que je dois faire? Il faut apprendre à prier, à écouter et à louer. Priez en psaume 17, verset 8 et 9. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Le juste ici demande à être gardé des méchants, comme la prunelle de l'œil du divin. À être caché à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, parce qu'il a la conviction que l'Éternel peut le faire. La prunelle des yeux est l'image de la fragilité. En Deutéronome 32, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, comme quelque chose de précieux. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. L'ombre des ailes est l'image de la sécurité et de la protection. J'ai mon cousin qui me dit, cette semaine, il a vu une maman cygne. Il a dit, c'était magnifique. Il a dit, j'avais pas mon appareil, photo, il dit, il y avait la brume et il y avait la maman cygne qui arrivait. Et qu'est-ce qu'il y avait autour, dans ses ailes, ces petits, ils étaient à l'ombre des ailes de la maman. C'est une image que l'Éternel nous donne. Viens à l'ombre de mes ailes et tu vas y trouver la protection. Toujours en Deutéronome, verset 11, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et prend les portes sur ses plumes. L'Éternel, c'est ce qu'il veut faire. Quand vous êtes dans la tourmente, quand on est dans la tourmente du monde, quand on est dans les épreuves, il veut nous prendre dans ses ailes. Écoutez. Le deuxième point, psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Combien de fois dans son histoire le peuple de Dieu a pu voir ces choses ? En Exode, chapitre 14, versets 13 et 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » La délivrance vient parfois dans ce qu'on est le spectateur des merveilles de l'Éternel. Est-ce qu'on voit encore les merveilles de l'Éternel dans nos vies ? Est-ce qu'on les voit encore ? Est-ce qu'on la voit, cette délivrance au quotidien ? Est-ce qu'on trouve normal que l'Éternel nous délivre ? Parce que quand il nous délivre, on en arrive au troisième point, louer l'Éternel. En psaume 34, versets 5 à 9, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Ces versets soulignent trois vertus du croyant, confronté à une situation d'épreuve, de détresse. La première, c'est la dépendance. Le fidèle cherche l'Éternel. De qui je dépends ? Je dépends de l'Éternel. Je ne vais pas me tourner vers le monde, vers des choses qui vont périr. Je me tourne vers l'Éternel. Et ce qui est incroyable, c'est que je le trouve. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable. Parce que beaucoup ne font pas cette expérience. Nos trois amis ont dit au roi, « Notre Dieu nous délivrera. » Ils avaient cette confiance. Notre Dieu nous délivrera. Ces gens, ceux qui se tournent vers l'Éternel, ceux qui crient à l'Éternel, ils ne regardent qu'à Dieu. Ils ne regardent qu'à rien d'autre. Ils ont les yeux fixés sur Jésus. Dans leur affliction, dans leur détresse, ils crient à Dieu. Et Dieu les sauve. La deuxième, c'est qu'ils ont une confiance en l'Éternel, parce que l'Éternel est bon. Ils savent que l'Éternel est bon. Est-ce que je sais que moi, est-ce que je sais que l'Éternel est bon ? Est-ce que je sais qu'il est capable d'aller dans les pires horreurs de ma vie ? Est-ce que je sais qu'il est capable de faire ça ? Et d'y amener sa lumière ? Le Seigneur a fait de nous des temples. Mais il n'a pas fait de nous des temples vides. Le Seigneur veut s'asseoir dans son temple. Est-ce qu'il est assis ce matin dans le temple ? Est-ce que sur les murs, j'ai plein de tableaux ? Où est-ce que j'ai les murs blancs, comme ces murs ici? Est-ce que le Seigneur est assis dans mon temple? La crainte de Dieu. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? La crainte de savoir qu'il est grand, qu'il est infiniment grand. La crainte de savoir que si je ne suis pas dans ses plans, je suis mort et incapable d'être devant lui. Combien dans ce monde nous disent « s'il y avait un Dieu ». Une fois j'ai dit à une personne « mais vous ne seriez même pas capable d'être devant lui ». Parce que vous seriez mort avant. Le Seigneur, Dieu nous voit au travers de Jésus. Ne l'oubliez jamais. Dieu nous voit au travers de Jésus. Ceux qui ne seront pas, qui n'auront pas Jésus en eux, Dieu va les annihiler. C'est la géhenne. Mais ceux qui sont en Jésus vont trouver cette délivrance. Ils vont avoir cet espoir que le Seigneur va venir dans leur détresse, va venir avec eux, au milieu, et il va les sauver. Dieu n'a peur de rien. Des pires choses, de vos pires cauchemars, Dieu n'en a absolument pas peur, parce qu'il domine toute chose, il domine tout esprit. Il est Dieu. C'est une pensée réconfortante de savoir que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Les grands de ce monde ont chacun, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps, les grands de ce monde, même les politiques, ont des gardes du corps avec les petits trucs à l'oreille. Et puis dès que quelqu'un arrive pour leur dire bonjour, ils sautent dessus. Mais ces gens, même ces gens sont vulnérables. Alors que nous, notre garde du corps, il est bien mieux. Il est invulnérable. Est-ce que je l'appelle au moment de la détresse? Est-ce que c'est pas bon de louer ce garde du corps? Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce que je loue l'Éternel pour cela? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les amis n'ont jamais lâché la main du Seigneur. Jamais. Est-ce que vous avez pensé qu'au départ, ils ont été lancés les pieds et les poings liés dans la fournaise et que le roi les voit ensemble? J'imagine main dans la main, marchant au milieu du feu. Ils n'ont jamais lâché la main du Seigneur dans l'épreuve. Est-ce que je lâche la main de Dieu dès que les épreuves arrivent? En conclusion, l'histoire de nos amis de Daniel, des amis de Daniel, nous montre une vérité importante. Si nous voulons marcher tout près de notre Seigneur, nous devons être prêts à aller avec lui, même dans le feu. Même dans le feu. Et c'est certainement pour nous l'endroit le plus sûr. Pourquoi? Parce qu'on va être avec le Seigneur. Non seulement nos sandales ne seront pas brûlées, nos vêtements ne porteront même pas l'odeur du feu. Même si la situation est extrême, le secours sera extrême. Dieu ne recule devant rien pour vous sauver et pour nous sauver. Il ne recule devant rien. Donc je disais, ces trois amis ont été sauvés parce qu'ils n'ont jamais lâché la main de l'Éternel. En psaume 139, versets 5 et 6, il est dit « Tu me tiens serré par derrière et par devant » et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous, on en est incapable. Dieu nous accompagne partout. Mais est-ce que je lui tiens la main? On a un Dieu glorieux, on l'a encore dit ce matin. Plus la nuit est noire, plus l'aube est proche. C'est-à-dire le jour de la délivrance est là. Plus les nuages sont sombres, plus les puits sources de vie sont abondantes. Plus le chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite. Plus les difficultés sont grandes, plus Dieu nous réconforte. Les vagues de la mer peuvent s'élever. Il y a Alain qui pourrait vous le confirmer, puisqu'il vient de Bretagne. Il peut y avoir la pire des tempêtes à la surface de l'eau. Vous allez dans les profondeurs ne bougent absolument pas. Et Dieu veut vous emmener dans ces profondeurs. Même si la surface de votre vie est ballottée de tous les côtés, il fera en sorte que vos profondeurs ne bougent pas. Vous serez insensible aux attaques du monde, insensible à tout ce qui peut vous assaillir, parce que vos profondeurs seront en Dieu. Ceux qui se confient dans l'Éternel sont comme les collines, ils deviennent inébranlables, mais surtout on les voit de loin. On les voit de loin. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Ils ont cette confiance en Dieu. La confiance de savoir que l'Éternel les délivre au moment de la tempête. Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera jamais atteint par la chaleur. Rien ne pourra l'atteindre. Parce qu'il sera l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Si on traverse des épreuves aujourd'hui, quelles qu'elles soient, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, prions, écoutons ce que l'Éternel a à dire et louons le jour de la délivrance. L'Éternel est pour nous, il n'est pas contre nous. Et si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Parce que l'Éternel est l'Éternel. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, que ton esprit puisse témoigner à notre cœur que tu veux venir avec nous dans nos feux. Tu veux t'asseoir dans nos temples. Seigneur, parce que tu as fait de notre corps un temple et tu veux y entrer pour t'asseoir, pour dominer ce qui nous domine, pour calmer nos profondeurs, y amener ta paix, ton amour, ta joie. Seigneur, que ton esprit agisse dans les profondeurs. Seigneur, tu es celui qui délivre, tu es celui qui accompagne quand les moments sont les plus terribles. Et tu dis, ne me lâche pas ma main, parce que je suis ici pour partager ces moments avec toi. Seigneur, que tu puisses écouter les cœurs ce matin, que tu puisses remettre la confiance où il n'y a plus de confiance. Que tu puisses relever les têtes là où elles se sont abaissées pour que les regards puissent à nouveau se fixer sur Jésus. Seigneur, que tu puisses délivrer ce matin. Que tu puisses couper les liens. Et Seigneur, que tu puisses accompagner dans les fournaises de chacun des cœurs qui crient à toi. Seigneur, délivre ce matin, par le nom de Jésus. Amen.